Nous sommes commencés, ça fait quelques semaines, une série qui s'appelle « Raisonnablement ». Et c'est une série dans le livre de Romains, d'accord ? Dans cette lettre que l'apôtre Paul a écrite à l'église qu'il n'a jamais visitée, à l'église de Rome. Une église multiculturelle, une église et dans laquelle, évidemment, c'était la culture romaine qui était là et qui devait vivre. Donc, il avait des juifs, il avait des non-juifs, il avait beaucoup de gens. Donc, Paul écrit et parce qu'il voulait avoir quelque chose à donner à cette église. Donc, il avait des gens qui venaient lui raconter comment l'église était. Donc, il écrivait et guidé par l'Esprit de Dieu, il écrivait ce que nous avons aujourd'hui entre nos mains. Et c'est une lettre qui nous parle de qu'est-ce que la grâce de Dieu. Qu'est-ce que est la grâce de Dieu en face aux œuvres? Donc, on ne peut pas, comme on vient de chanter tout à l'heure, car Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, il n'y a rien que je puisse faire, que l'apôtre va développer jusqu'à chapitre 11 de cette lettre. Il n'y a rien que je puisse faire pour venir devant Dieu. Et là, ça fait 2 semaines, on a parlé, et qui te crois-tu? Donc, et Romains chapitre 2, et verset 1 jusqu'à verset 16, la même partie du chapitre 2. Et il parlait de gens moralistes, au moral, qui dit, bon, je fais tout bien, il n'y a rien que tout ce que je fais, c'est bien, c'est parfait. Donc, il n'y a rien de choses à me rapprocher. Et Dieu dit, n'importe la quantité des choses que tu vas faire, chacun va rendre compte des efforts devant le Seigneur. Et même on a lu un passage dans le Nouveau Testament où Jésus dit, à quoi ça sert à l'homme de gagner tout le monde et perdre son âme? C'est pas mauvais de faire de bonnes œuvres, mais à quoi ça sert pour l'éternité? À quoi ça sert pour l'éternité? Ça ne veut pas dire, Jésus n'était pas en train de dire il ne faut pas faire de bonnes œuvres. Il est en train de dire attention que les bonnes œuvres ne sauvent pas. Celui qui sauve, c'est Christ. Jésus dit, Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, sinon que par moi. » Donc Paul va à faire d'une façon raisonnable, quelque chose qu'on va pouvoir comprendre. Parce que parfois, c'est compliqué, toute cette histoire de ce que lit la Bible, ce que Jésus dit, il n'y a pas dit, mais Paul va le faire plus simple pour comprendre. On va arriver maintenant au chapitre 2, donc on va rester au chapitre 2 la plupart du temps, du verset 17 à verset 19, mais verset 17 jusqu'à la fin du chapitre, verset 29. Mais alors, pour commencer, j'aime bien et parfois faire des illustrations. Parce que ça nous aide après à pouvoir comprendre ce que Dieu veut nous dire. Un ingénieur a été appelé pour venir réparer un ordinateur. Évidemment, cet ordinateur était extrêmement cher, donc il fallait quelqu'un de la compagnie qu'il avait créée. Donc cet ordinateur était en panne. Il ne permettait pas que la compagnie puisse faire ce qu'elle pouvait faire. Donc, Il dit, voilà l'ordinateur, il faut que vous le répariez parce que ça ne marche pas. Donc il allume, cet ingénieur, il parle avec soi-même, il mène la tête comme ça, il bouge la tête comme ça, et après 3 minutes, en face à cet ordinateur, il éteint, il ouvre son sac, il prend un tournevis, il se met dessus, l'ordinateur, il sort une plaque, il ajuste une vis, il remet la plaque à son lieu, il rallume l'ordinateur et tout va bien. Et ça fonctionne, ça fonctionne comme avant. Et le président, le responsable de cette compagnie, dit, waouh, il était content qu'ils allaient pouvoir revenir à la normale. Il dit, bon, combien je vous dois? Il dit, $1,000. À $1,000 pour 5 minutes de votre travail? Oui, $1,000. Simplement pour serrer une vis, $1,000? Oui. Bon, et écoutez, je sais que ça coûte beaucoup plus que 1 000 $ l'ordinateur, mais 1 000 $ pour cela, je vais demander que vous m'envoyiez votre, comment ça s'appelle, la facture avec tous les détails. D'accord, très bien, très bien. Alors, la facture vient le lendemain et il va lire correctement, il va lire la facture et finalement il va payer. La facture disait ceci. Service. Serrer une vis, 1 €. Savoir quelle vis serrer, 999 €. Pourquoi? Parce que ce que ça vaut vraiment, c'est la personne qui sait faire. Pas simplement qui le sait, mais qui le fait. Donc, évidemment, c'était un peu comme payer 1 000 $ pour 5 minutes de travail, ou 1 000 € pour 5 minutes de travail. Mais savoir quelle vis serrait, serrait la vis 1 € et savoir quelle vis serrait, c'est encore plus la capacité de la personne. Et si on a des... Bon, je ne sais pas si tu es un ingénieur, mais je pense que tu sais de quoi je parle. Pourquoi? Parce que des grosses machines, on a besoin que de l'ingénieur qui l'a construit, qui sait vraiment où il allait le faire. Alors, ce que ça vaut vraiment, c'est de connaître, mais simplement connaître, c'est de le mettre en pratique. Ce que Paul maintenant va rentrer, mais il va aller directement parler à un groupe de personnes qui s'appellent les Juifs. Dans cette église, il y avait des Juifs et non-Juifs. D'accord, on avait dit ça tout à l'heure. Mais alors, il vient pas d'attaquer, mais de se concentrer en premier de la première partie du chapitre avec tout le monde, Juifs et non-Juifs. Parce que tous les Juifs et non-Juifs, ils s'étaient priés tout à l'heure, il n'y a pas de Juifs et Grecs. Et chacun... Toute personne va être demandée, dans le jugement de Dieu, il va rendre à chacun selon ses œuvres. Car devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. Donc, il va parler maintenant directement aux Juifs et le commencement du chapitre 3, il va parler à non-Juifs. Alors, la première partie de ce qui va parler aux Juifs, il va aller assez dur. D'accord, Paul, il y a parfois une façon de parler assez directe et dure. Donc, mes amis, si vous vous sentez vissé ce matin, ce n'est pas moi qui vous visse. J'ai pensé à personne que vous êtes assis ce matin parce que je ne savais pas qui venait ce matin. C'est la parole de Dieu qui parle. Si vous voulez vous énerver, énervez-vous contre Dieu. D'accord, pas contre moi. Alors, la première partie... J'ai mis un titre qui s'appelle « Ce que je crois est assis sur une nuage ». C'est un peu bizarre comme titre, mais il va renfermer tout ce que Paul va dire aux Juifs. On va lire, si vous voulez bien, de verset 17 ou verset 20. Si vous n'avez pas votre Bible, le passage va être aussi affiché sur l'écran. Toi, qui te donne le nom de juif, qui te repose sous la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans des ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science, de la vérité. Alors là, Paul va aller directement en parler au cœur des Juifs qui se croyaient assis sur une nuage, qui se croyaient assis sur quelque chose de nous, on a tout la loi. On était au chapitre 3, il va expliquer un peu plus cela. Il va dire, vous avez quelque chose d'impressionnant chez vous, mais vous vous mettez sur une position extrêmement haute que ça vous rend orgueilleux. Ça vous rend... Et vous mettez par-dessus des autres. Paul n'est pas gentil avec eux. Mais tout ce qu'il dit, c'est vrai. Ils avaient reçu la vérité. Ils avaient reçu la loi. C'est le peuple que Dieu avait choisi pour recevoir sa vérité. C'est le peuple d'Israël. Mais ils ont pris cette vérité comme dire, nous, on va vous dire quoi, qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est mauvais. Alors, je vous invite à lire les évangiles. Et combien de fois je suis été confronté devant les pharisiens et les sadducéens et les scribes. Pourquoi? À cause de ça. À cause de toute leur quantité de choses qu'ils avaient mis comme loi, pas simplement de ce que Moïse avait dit, mais par-dessus de ça, plus de 600 lois, personne ne pouvait accomplir. Personne ne pouvait accomplir. Matthieu, chapitre 23, dit ceci. Faites donc, c'est Jésus qui parle, faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Mais n'agissez pas selon les œuvres, leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus de quoi? Des hommes. Alors, ici, ils mettaient des fardeaux encore plus de ce que c'était déjà dit. Déjà, c'était compliqué de pouvoir mettre en œuvre les 10 commandements. Jusqu'à aujourd'hui, c'est compliqué pour nous tous de mettre les 10 commandements en application. Imaginez-vous 500 et quelques plus des lois encore sur nous. C'était quoi? Impossible. Si vous voulez continuer à lire après Matthieu 23, vous allez voir tout ce que Jésus leur dit. Vous vous mettez des choses dans votre vêtement pour que les gens vous voient et vous donnez offrande, vous donnez la dîme. C'était les choses qu'ils ramassaient simplement, qu'ils ne faisaient même pas l'effort. Ça venait pas de leur cœur. Et tout ça les enflait d'orgueil. Pourquoi? Parce qu'ils savaient la loi. Et ce n'est pas mauvais d'avoir tout cela pour continuer à vivre comme Dieu veut. Mais quand cela me fait mettre par des yeux des autres, il y a un problème. Et je me crois assis sur un nuage. En Proverbe chapitre 25, verset 14, et l'auteur dit, « Comme des nuages et du vent sans pluie, ainsi est un homme se glorifiant à tort de ses libéralités. » Je me crois bien, mais finalement, c'est quoi? Je suis sur un nuage qui n'a pas ni de vent, ni de pluie. Ça sert à quoi? À rien. La question que je me pose, est-ce que combien de fois nous, en tant qu'enfants de Dieu, on met aux autres, sur autres, des fardeaux inutiles? Pourquoi? Parce que je lis de la parole de Dieu. Écoutez bien, il ne me prenez mal mes paroles. La Bible dit nulle part que je dois prier 3 fois par jour. Nulle part. On voit l'exemple de Daniel. Le prophète Daniel qui dit qu'il s'est levé et que prier 3 fois. La Bible nous dit prier sans cesse. Mais de là à que Dieu vienne, Jésus vienne avec sa parole, ils me disent, prie 3 fois. Je le vois nulle part. C'est voir où que je dois, et c'est où de la parole de Dieu que je dois me lever tôt le matin par demande de Dieu. Écoutez bien. C'est où de la parole de Dieu, par demande de Dieu, que je dois me lever le matin tôt ou me coucher tard pour lire la parole de Dieu? Nulle part. Le roi David disait, je me lève tôt parce que c'est cette désir que j'ai de Dieu. Ce que la Bible dit, c'est que Dieu nous donne le vouloir comme le faire. Mes amis, je ne peux pas créer ce vouloir. Déjà, en étant avec la maladie de Covid, c'était très compliqué, difficile de m'asseoir pour lire ou pour prier. Et je n'ai pas honte de le dire. Est-ce que je suis moi, enfant de Dieu, parce que je prie moi? Non! Est-ce que je suis moi, enfant de Dieu, parce que je lis moi la Bible? Non! La Bible dit nulle part. Et parfois, on met ses fardeaux devant les gens. Non, 3 fois par jour. Si quelqu'un veut prier plus que ça, amen! C'est une décision de chacun dans sa relation personnelle avec Dieu. Mais les Juifs et nous, aujourd'hui, on met des fardeaux sur les gens inutiles. Alors, la Bible dit, il faut se préparer pour être, pour présenter défense, une bonne défense devant ceux qui demandent raison de votre foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un encouragement à étudier la parole de Dieu. Mais nulle part, Dieu nous dit, il faut que tu le fasses. Ici, la question, c'est ne pas venir avec tout ce que je connais, me croire comme le juif se croyait quelque chose. Pourquoi? Parce que ma vie va être assise sur un nuage qui ne donne rien, ni de pluie, ni de vent. Ce que je crois est assis sur un nuage, lequel est simplement beau de l'extérieur à voir, mais sans rien à l'intérieur, qui vaut la peine vraiment. Mais pourquoi? Car entre le dire et le faire, il y a un long chemin à parcourir. Car entre le dire et le faire, il y a un long chemin à parcourir. Chapitre 2, versets 21 à 24, Paul va dire la chose suivante. Toi donc, il parle aux Juifs, ok? Et à vous et à moi aussi. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas à toi-même? Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes? Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère? Toi qui a une abomination les idoles, tu commets des sacrilèges? Toi qui fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi? Écoutez bien. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Comme cela est écrit. Mes amis, toi qui. Là, Paul va pointer encore une fois encore plus de doigts aux Juifs. Pas simplement ce que tu sais et tu t'assois sur le nuage. Maintenant, c'est que ce que tu dis. On vient de le lire en Matthieu 23. Dit Jésus, ne faites pas ce qu'ils vous faites, ce qu'ils vous disent, pas ce qu'ils font. Qu'est-ce que j'entends de faire? Toi qui? Toi, moi, nous, ce matin, on dit, on est enfant de Dieu. Pour ceux qui ont mis la confiance en Christ. Qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que ma vie a été transformée? Qu'est-ce que ma vie continue à être transformée? C'est de vous qu'on a dit que, comme Paul dit, qu'à la puissance de l'évangile, c'est la puissance de Dieu, c'est pas simplement une dynamite qui donne cette première rentrée dans la vie de Christ, mais c'est un dynamo. Un dynamo, c'est quelque chose qui a quelque chose de continuel, mais que c'est Dieu qui met cette puissance continuelle. Mais sans ce dynamo continuel de Dieu, je ne peux pas vivre ce que je dis vivre. Nous sommes tenus pour responsables de nos actes. Et nos paroles sont la mesure que les autres vont voir par rapport à ce que nous disons croire ou pas croire. Écoutez ce que la Bible dit. Jacques chapitre 2. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi et il n'y a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Attention, ici, Jacques va faire différemment. C'est différent de ce que Paul va dire. Paul, ici en Romains, va dire la foi sans les œuvres pour venir à Christ. Jacques va dire la foi montre, et pardon, les œuvres montrent ce que je crois. Voilà la différence. D'accord? Il ne faut pas se confondre. Mais frère, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi S'il n'y a pas les œuvres, la foi peut-il les sauver? Si un frère et une sœur sont nus, ils manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps. À quoi cela sert-il? Il est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un derrière, toi, tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir en vain que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut pas-il justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres de la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut et cela lui a fui imputé à justice et fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par notre chemin? Comme le corps, son âme est mort, de même la foi, sur les œuvres, est mort. Mes amis, tout ce que je fais va montrer ce que je crois. Tout. Il n'y a rien que je puisse ne pas faire qui montre ce que je crois. Alors, un exemple, qu'est-ce que je dis? Je peux montrer quand je viens ici et on parle par exemple de commérage. La Bible dit que c'est contre ce que Dieu veut. Dieu veut la vérité en face. Pas la vérité cachée quand la personne n'est pas présente. On le dit, on le pense. Mais quand on arrive au travail, on commence à écouter du commérage, on fait partie de ce type de discussion. Qu'est-ce qui se passe? Tout ce que je crois est tombé à l'eau. Et je viens de ne pas montrer avec mes œuvres ce que je crois. Ou par exemple, dire aux autres de ne pas juger. Et finalement, je rentre à la maison, je vais juger. Toi qui tu dis que tu gardes la loi, mais finalement tu le fais dans ton cœur. Peut-être on ne le fait pas en face aux autres, mais le fait de mon cœur. Que le cœur, c'est ce que Dieu voit. Ce que Dieu voit directement. Alors, verset 24, c'est dur parce que car le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous, comme cela est écrit. Mes amis, nous ne pouvons, ce que nous disons, ce que nous vivons, peut faire blasphémer ou que la personne ne veut pas entendre parler de Dieu à cause de mes attitudes, à cause de mes actions. Je l'avais dit déjà, mais ça vaut la peine de le dire. On était au Mexique, dans l'église au Mexique. Ma femme, Marcela, était en train d'avoir une conversation de la Bible, un suivi personnel avec la femme. Et l'homme, son mari, était là, en train de l'attendre à l'extérieur. Je m'approche de lui pour poser la question par rapport à la foi, qu'est-ce qu'il pensait. Il me dit, je ne veux pas entendre parler des chrétiens. Je ne veux pas entendre parler des chrétiens. Je lui dis, bah, pourquoi? Parce que je me comporte mieux que beaucoup de gros chrétiens. Quelle honte. Pour moi, même si j'avais rien fait. Mais le monde voit. Et même si une personne fait quelque chose qui n'est pas ce qui va contre la sainteté de Dieu, tous les chrétiens sont tous de même ça. Tous les chrétiens sont comme ça. Vous et moi, on a une grande responsabilité. Tel que les Juifs avaient une responsabilité de garder la loi, d'être veilleurs de ce que Dieu avait donné. Nous avons cette responsabilité de quoi? De que cet chemin entre le faire et le dire, entre le dire et le faire, soit court, soit pas long. Chaque fois que nous venons écouter la parole de Dieu, que vous vous levez pour écouter la parole de Dieu, que vous parlez avec Dieu, nous sortons encore plus responsables de nos actes et de notre relation personnelle avec Dieu. Quand vous passez cette porte-là, vous êtes encore plus responsable que quand vous avez rentré. Parce que peut-être avant, vous ne connaissez pas cette partie du passage, et aujourd'hui, Dieu vous parle de quelque chose, donc vous êtes responsable maintenant de ce que vous avez entendu. Mais qu'est-ce que le plus important? Qu'est-ce que ça vaut vraiment? Paul va expliquer ici, dans versets 25 et 29, que ce qui importe, c'est ton cœur. Ce qui importe, c'est ton cœur. Pas ton cerveau, mais ton cœur. Lisons ensemble versets 25 à 29 de Romains chapitre 2. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi, mais si tu la transgresses, la loi et ta circoncision devient incirconcision. Je vais expliquer. Et incirconcision, ce que Paul va dire, on parle de deux choses différentes. Une chose, c'était la partie physique, d'accord? Donc, c'était un rituel juif dans lequel, et à travers de cette chose médicale qu'on fait dans un homme, et surtout, qui se passe, on devient juif. On devient véritablement juif. Mais aussi, le fait d'être juif nous mettait dans un système de croyances juives, qu'on parle de la circoncision. Paul appelle à ce système de croyance juive, l'appelle la circoncision. D'accord? Donc, Paul parle de deux choses. Donc, la circoncision est utile, physique et le système. Mais si tu mets en pratique la loi, mais si tu la transgresses, la loi, ta circoncision devient incirconcision. Tu deviens comme... Pourquoi tu fais ce que tu fais si vraiment tu dis ce que... Si tu dis que tu crois en ça, pourquoi tu fais la chose inverse. Si donc l'incirconcis, celui qui n'est pas dans ce système de loi, observe les ordonnances de la loi, son incirconcision, il parlait des non-juifs, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? L'incirconcis de nature, le païen ou le non-juif, qui accomplit la loi, ne te condamnera pas-t-il, a-t-il pas, toi qui la transgresses et tout ayant la lettre tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Paul va introduire des choses très importantes ici. Écoutez bien. D'accord. Donc Paul dit, ce n'est pas un juif ce qui se passe à l'extérieur. D'accord. Verset 29. Mais le juif, c'est celui qui est à l'intérieur. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais des dieux. Paul est en train de dire, attention que tu n'es pas un véritable juif parce que tu as la loi en toi. Mais on est des véritables, on parle des juifs directement, pourquoi? Parce qu'il y a une transformation, circoncision du cœur. Il y a quelque chose qui avait été coupé dans le cœur pour venir un véritable juif. Il est en train de parler à juif et non juif. Donc Paul va introduire un sujet spécifique qui s'appelle le peuple de Dieu. Qui est le peuple de Dieu vraiment? Parce que jusqu'à quand Christ est arrivé, le peuple de Dieu était désigné. C'était qui? Que les juifs. Et là, Paul va ajouter que le peuple de Dieu, c'est les juifs, les véritables juifs. Ce sont ceux que, et c'est intérieurement, c'est la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. Et non selon la lettre, non selon ce qui était la loi qui est écrite. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Donc, Paul est en train de introduire cette notion de peuple de Dieu, un Israël spirituel. La Bible dit que vous et moi, on est le peuple de Dieu. On est un peuple choisi. En 1 Pierre chapitre 2, versets 9 et 10, écoutez bien ce que Pierre dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, d'accord, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant vous êtes le peuple de Dieu, vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez-vous obtenu miséricorde. Dieu dit, n'importe, juif ou non-juif, c'était prié tout à l'heure, Dieu a cassé cette barrière de séparation. Maintenant, il y a toutes les personnes qui viennent à Christ, on devient le peuple de Dieu. J'ajoute encore une fois, on est appelé le peuple spirituel, le peuple d'Israël spirituel. On n'est pas juif, à moins que vous ayez des racines juives, d'accord? Mais ici, Paul va dire, n'importe, tu n'es pas juif par la loi, parce que tu connais. C'est par ce que Dieu a fait dans ton cœur. Ce que Dieu a fait dans ton cœur. En Colossiens chapitre 2, verset 11, dit, et c'est en lui qui vous a été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi et en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité entre les morts. Jean 1, 12 dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Voilà quelques passages pour nous dire, en Colossiens et même en Jean, qui nous dit, le peuple de Dieu sont des gens qui viennent à lui et pas à cause de la loi. Donc Paul est en train de dire, aux Juifs, que la réalité est que n'importe la quantité des choses que vous avez en tant que personne, en tant que peuple élu, ou race élue, que ces œuvres-là ne tiennent pas la route devant le Seigneur. Et ce que ça vaut vraiment, c'est le cœur et son attachement aux choses de Dieu, mais pas aux choses de cette terre, comme la connaissance. La connaissance est bonne pour savoir comment ça marche les choses, pour savoir ce que Dieu veut pour nous, pour comprendre la parole de Dieu. Tout ça, c'est bon. Mais si on s'assoit sur un nuage qui n'a pas de pluie, qui n'a pas de vent, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de dire « je suis enfant de Dieu » quand vraiment je ne le vis pas. En plus, je peux faire encore plus de mal à mon témoignage personnel et au témoignage de l'Église de Dieu à cause de mes attitudes. Parfois, c'est bien de connaître beaucoup de la parole de Dieu, parfois, c'est pas bien. Pourquoi? Parce qu'on a parfois le sentiment de dire « j'ai la vérité ». Et Dieu me dit « ah, ah, non ». Le seul qui a la vérité entre ses mains, il la tient entre ses mains, c'est Christ. Et quand je me mets à la place de Dieu pour être juge, pour dire « ça, c'est ce que la Bible dit », se mettre à Christ par-dessus tout ça, je me mets à la place de Dieu et je dis, ça c'est pas ta place. C'est exactement ce que Satan voulait. Satan voulait s'asseoir dans le trône de Dieu pour avoir cette autorité. Il savait qu'il ne pouvait pas être Dieu, il voulait cette autorité. Il voulait tout ça et Dieu lui a dit, au revoir de ma présence. Au revoir. Ciao. Dieu n'aime pas que personne prenne sa place. Dieu a sa place, nous avons notre place. Nous avons une place de privilège. Être quoi? Enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu, je lui appartiens. Et cela doit nous souffrir. Écoutez bien, cela doit nous souffrir. La chose la plus haute qu'un chrétien peut arriver devant le Seigneur, c'est un serviteur. Rien d'autre. Si Jésus, il a dit clairement, noir sur blanc, il a dit, je suis venu quoi? Servir. Et si Jésus, on dit qu'il est notre modèle, nous devons être à son niveau, pas par-dessus de lui. Donc mes amis, ce que ça vaut vraiment ici, c'est que notre cœur soit attaché aux choses qui valent la peine. Et la chose qui valent la peine, c'est que nous soyons des serviteurs humbles devant le Seigneur. N'importe la quantité d'expérience qu'on a ou pas de la parole de Dieu, parce que l'expérience, ce n'est pas ce qui nous fait mieux ou pas. C'est notre relation personnelle avec Dieu et tous les jours. C'est notre contact, notre communication avec Dieu. Pourquoi? Parce que les cieux de ce monde vont décortiquer notre vie. Ils vont être impitoyables avec les enfants de Dieu. S'ils peuvent nous faire tomber, ils vont le faire. Pourquoi? Quand un enfant de Dieu s'engage à être lumière dans ce monde, les ténèbres vont se mettre en face à cet enfant de Dieu, décidé, ils vont dire, on va te faire tomber. On va te faire tomber. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas des chrétiens fervents. Ils veulent des chrétiens froides. Des chrétiens qui ne bougent pas, des chrétiens qui n'ouvrent pas leur bouche, des chrétiens qui ne vivent pas pour Dieu. C'est ce que les ténèbres cherchent. Ce que ça vaut vraiment, c'est que ce que je mets en pratique, ce que je connais, doit être mis en pratique. On est tous responsables de nos actes. Responsables de nos actes. Si notre cœur est droit devant le Seigneur et ne cherche pas à se vanter, mais à rendre la gloire à celui qui la mérite, soit à Christ, notre vie montrera ce que nous sommes. Et en fait, elle va être alignée avec Christ. Et cela sera un témoignage pour le monde que ma vie reflète vraiment ce que ça vaut vraiment la peine pour moi, Christ. Christ. Et pour terminer ce matin, j'aimerais bien pouvoir chanter ensemble ces chants qui s'appellent « Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus ». Si vous connaissez le chant, je vous invite à le chanter comme une prière. Sinon, les paroles vont être affichées. Mais la question que nous posons, est-ce que vraiment mon cœur vaut vraiment quelque chose devant le Seigneur? Et si c'est oui, parce qu'il nous a tellement aimés, Dieu veut vraiment qu'il soit le centre, qu'il soit notre lumière, qu'il soit notre source, qu'il soit notre vision, qu'il soit mon feu, tout ça. Chantons ensemble, Jésus, sois le centre.